les vieux causent aux jeunes.
Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Une émission réalisée avec les résidents des EHPAD Esterel et Marcel Devaux, présentée par Lucie Geffroy.
Bonjour à tous, merci d'être ici. Nous sommes à la salle municipale Le Tapis Rouge à Colombes pour l'enregistrement en direct de l'émission « Les vieux causent aux jeunes ». Cette émission a été réalisée avec une quinzaine de résidents des deux EHPAD de Colombes, Esterel et Marcel Devaux. J'en profite d'ailleurs pour saluer les résidents qui sont restés sur place et qui nous écoutent en ce moment puisque cette émission est retransmise en direct dans les deux résidences. Pendant plus d'un mois, Jackie, Josiane, Denise, Laszlo et bien d'autres se sont confiés chaque semaine au micro de Louise et Emmanuel de l'association Chronos Equeros. Ils y ont raconté leur vie, les moments de joie, leurs souvenirs d'enfance, de jeunesse, leurs premiers baisers, mais aussi quelques souvenirs plus sombres comme ceux de la guerre. Dans cette émission, on les entendra aussi chanter, livrer des conseils aux jeunes et peut-être aussi nous confier de nouveaux souvenirs inédits en direct puisque certains d'entre eux sont autour du plateau avec nous. C'est parti.
Je m'appelle Alain Baniclès.
Je suis Madame Bruna, Paulette,
Dorcas, Quassi.
Je m'appelle Denise Renaud.
Je m'appelle Laszlo Biernatski.
Je m'appelle Josiane René.
Jacqueline Évrard.
Je m'appelle Saint-Jean-Pierre.
Luno. Marlène.
Bouet. Bernard.
Je m'appelle Mireille Botua.
Jacqueline Embrecht.
Autour du plateau avec nous aujourd'hui se trouvent Josiane, Denise, Maurice, Jackie, Bernard, Louise et Emmanuel. Bonjour à vous tous. Pour commencer, avant d'écouter vos premiers témoignages, je m'adresse à toi Louise. Je voudrais savoir un peu comment se sont passés ces ateliers radio à la maison de retraite Marcel Devaux où tu te trouvais.
Alors déjà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer atelier après atelier les résidents de Marcel Devaux. Pour la simple et bonne raison que voilà, ça a cassé aussi quelques petits préjugés. Les personnes âgées sont loin d'être rabat-joie, sont loin d'être has-been, comme on dit. Et voilà, au fil des ateliers, on s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup envie de parler de leurs souvenirs de jeunesse, parce qu'avec l'âge et puis la mémoire parfois qui s'en va, ce qui reste, ce sont vraiment les souvenirs d'enfance, de jeunesse. Et donc on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire dialoguer ces jeunes d'hier avec les jeunes d'aujourd'hui.
On va tout de suite écouter, vous allez entendre Paulette, Laszlo, Josiane, Jackie et enfin Jean-Pierre qui ont fait les 400 coups dans leur jeunesse. Vous allez voir, ça rigolait pas toujours.
J'ai pris un chat. Et puis je l'ai lavé, je lui ai fait un shampoing. Il a fallu le rincer. Alors la pauvre bête, les chats qui n'aiment pas l'eau, il a été gâté. C'était une grosse bêtise.
J'avais 6 ans, même pas. Ma mère était la directrice de la colonie de vacances. Elle avait un gros paquet de bonbons. C'était destiné, je ne sais pas exactement à quoi. Tous les bonbons, j'ai jeté par la fenêtre. Oh. Il y avait des enfants et je distribuais tous les bonbons. Ça leur a plu. Ce que j'ai eu comme punition, c'était pas martinet, c'était une sainte... ceinture. Et ma mère n'avait pas la main douce. Et ça m'a vraiment marqué.
Moi, ça m'est arrivé de boire, à chanter la Marseillaise en breton dans la rue. À ma maman, j'y en ai fait voir de toutes les couleurs. Elle m'attendait, tu rentres à telle heure, j'arrivais à minuit. Ronde déglinguée. Alors j'avais les clés, elle m'a pris qu'il y a les clés, alors je dis mince. Bon, moi je recommence plus, mais ça fait rien. Elle me redonnait les clés, mais j'en ai fait faire une en double, comme ça je pourrais rentrer. C'était la jeunesse, mais c'est-à-dire que mais j'étais pas méchante, tu vois, mais ce que j'avais envie de dire, fallait que je le dise. Voilà. Quelqu'un dans la rue qui m'emmerdait, je venais pas me faire chier. Ouais. J'avais un petit vocabulaire qui était pas très net quand même, des fois.
avait un vélo et on avait un cabanon dans le jardin et le vélo était pendu. Et un jeudi après-midi, on allait faire du cross à côté de chez moi. Et malencontreusement, en faisant le circuit, on appelait ça le trou du diable. J'ai fait comme ça, puis de l'autre côté, plaf, je suis tombé sur le roue avant. La roue avant en 8. Bon, je rentrais comme ça à pied. Mais au lieu de le dire à mes parents, j'ai raccroché le vélo, j'ai rien dit. Et ma mère en a eu besoin, justement, à fait exprès. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'as fait avec mon vélo? Je dis, rien du tout, j'ai pas touché à ton vélo. Elle me dit, tu peux... Oh, j'ai pris une claque dans la gueule, pardon. J'ai pris une gifle super bien, et j'ai dit, tu seras plus, hein. Voilà. Bon, puis j'en ai d'autres, mais c'est moins grave.
J'ai été élevée par ma grand-mère. Elle me donnait des fois des petits coups de martinet sur les jambes, mais ça cinglait bien. Hein. Elle me disait, Paulette, si ça continue, tu vas avoir le martinet. Alors là, je me mettais dans un petit coin, puis j'ai dit, non mémé. À l'école, chez les sœurs, pour les punitions, c'était les mains dans le dos. Et ensuite, il nous mettait le bonnet d'âne, il fallait se mettre à genoux sur des briques. Pour peut-être une demi-heure, hein, ça tenait. Et les sœurs, c'est des peaux de vache.
D'accord. C'est rare qu'il m'en filait une, et quand on en prenait une, c'était une vraie.
Quand vous en preniez une, c'était une vraie. Ouais. C'était rare, mais quand
c'était rare, ça faisait mal.
Et la pire bêtise que vous ayez faite,
bon, c'est planquer le martinet.
Planquer le martinet, ouais.
Alors Maurice, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous aussi, comme Paulette et Jean-Pierre, vous avez connu le martinet?
Oui.
Vous avez fait aussi des grosses bêtises quand vous étiez plus jeune?
Oui.
Est-ce que vous vous souvenez d'une bêtise que vous avez faite?
Bien sûr, connu le martinet, parce que j'avais sauté du premier étage. Et puis, ma mère avait tellement eu peur que quand je suis rentré, elle m'a mis. Je voyais le coup de martinet.
D'accord. Et vous, Denise? Là, on a entendu beaucoup de personnes qui ont parlé quand même de corrections pas très jojo.
Oui, moi, je ne me rappelle pas du tout ce que j'avais fait, mais je sais qu'une fois, mon père a pris le martinet et m'a cinglé les jambes. Et je vous dis que ça cinglait fort et que ça faisait des belles marques rouges. Voilà.
On fait plus ça maintenant?
Non, mais c'est peut-être dommage.
Ah. Josiane, vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, le martinet, non, moi je l'aurais pris, je l'aurais caché. Non.
Ouais.
Moi j'en avais un à la maison, mais moi je l'avais caché pour pas que ma mère me le trouve. Comme ça, alors elle me disputait, mais oui, le martinet, ben, je sais pas, j'étais par la fenêtre. Mais c'est pas vrai, je l'avais pas acheté, j'avais mis sous mon matelas.
Et la Marseillaise en breton?
La Marseillaise en breton,
vous
moi.
Vous seriez capable de la chanter encore?
Oh non, la Marseillaise, oui, mais en breton, non.
Bon, là, on la chantera tout à l'heure.
D'accord.
Alors, pour certains résidents, cette période de jeunesse a malheureusement été marquée par la guerre. Emmanuel, tu as travaillé sur ce thème avec Jacqueline, Maurice, Bernard et Marlène de la maison de retraite Esterel. Comment vous êtes arrivé à aborder ce sujet-là tous ensemble?
À vrai dire, il y a pas mal de sujets qui ont été discutés lors de la première séance. Et puis, petit à petit, c'est finalement, je pense, ce qui regroupait un petit peu tous les résidents, que ce soit des souvenirs tristes ou heureux. Mais je pense que c'était aussi pour eux une façon de transmettre justement aussi un message d'espoir, en fait, à la jeunesse, et de dire, voilà, il faut quand même toujours tenir le coup et faire face.
Alors, on va écouter tout de suite Jacqueline nous raconter un souvenir de la guerre 39-45 à Brest, où elle vivait. Vous allez voir, ce n'est pas Paris sous les bombes, c'est Brest sous les chapeaux.
Je me trouvais chez ma tante, qui est brestoise. Nous avions décidé d'aller faire un tour dans les rues de Brest, qui sont très belles. Et la mer est au lointain. Tout ça faisait un enchantement pour moi qui était en pension. Et cet après-midi a été gâché par la sirène qui invitait chacun aux abris. Ma foi, nous y sommes vite descendus. Parce que Brest, c'est une ville stratégique. Il y avait les sous-marins qui étaient au large allemands. Il y a l'arsenal de Brest qui est très important. Donc tout ce monde-là travaillait. Et donc moi, je n'avais qu'une idée en tête, c'était de ne pas perdre ma tante dans le dédale des sous-sols. Et quand je suis remontée avec elle, je lui tenais la main fortement. On était un peu dans la fumée. Et là, ma tante me dit, viens, nous allons nous mettre le long de cet immeuble. Évidemment, ce n'était pas rassurant pour une petite fille, mais on y était habitués. Hein. On s'est cachés, on s'est collés le long des murs. Et d'un seul coup, j'entends ma tante qui me disait, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais où sont les têtes ? Alors évidemment, les têtes de qui, les têtes de quoi ? Oui, on était un petit peu affolés par sa réflexion. Et effectivement, on voyait plein de chapeaux en l'air qui, avec la déflagration, s'en allaient et le vent, parce qu'il y a quand même beaucoup de vent là-bas. Et elle disait, mon Dieu, où sont les têtes ? Et nous, on cherchait les têtes, évidemment. Et puis, il y a une des tantes qui était avec nous, qui disait, mais Marie, raconte pas de bêtises, t'es devant un chapelier. Alors évidemment, ça nous a fait rire, parce que l'angoisse était partie. Mais les chapeaux qui volaient partout, ça, c'était quand même impressionnant, hein. Surtout que moi, j'étais pas vieille, hein. Je devais avoir 8-10 ans. Et après l'émotion passée, et ben, on s'est mis à rire.
J'en profite tout de suite pour saluer Jacqueline qu'on vient d'entendre et qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle est hospitalisée. Je voudrais poser quelques questions. D'abord, je vais commencer par vous, Bernard. Est-ce que vous avez... Quel souvenir, vous avez de la Seconde Guerre mondiale ? Est-ce que vous vous souvenez où est-ce que vous étiez à ce moment-là et quel souvenir vous avez de cette période-là ?
Oui, c'est une horrible chose qui est arrivée à Épinal, dans les Vosges, comme tout le monde sait. Et nous avons subi un bombardement anglo-américain, je crois. C'était pendant la guerre. Malheureusement, sur le lycée d'Épinal, où je me trouvais comme jeune étudiant de la 6e, le lycée a été bombardé comme la ville d'Épinal. Il y a eu beaucoup de morts, des centaines de morts. Je sais pas, près de 200 morts, enfin peu importe, pas peu importe pour les gens qui sont morts. C'est pour eux que je parle. Quand le bombardement a commencé, on était dans un cours, c'était le cours d'allemand, que c'est pas obligatoire. C'était un cours facultatif comme les autres. Hein. Enfin, c'était cours d'allemand. Et donc les bombes sont tombées. Le professeur, qui était une dame, a manifesté. Tout ça, ça m'est revenu après. Aucun affolement, un calme absolu, ni bien ni mal, un calme glacial, mais qui nous a calmés. Et je me dis, bon, mes petits-enfants, rentrez chez vous, vos parents, s'il en reste, viendront vous chercher. Mais il a calmé les choses d'une façon extraordinaire. Et j'aime bien raconter cette histoire, parce que maintenant, on en fait un peu trop sur ces événements. Non pas qu'il faille les oublier, il ne faut surtout pas les oublier, pas du tout. Mais il faudrait que je retrouve dans la société d'aujourd'hui, ce calme paradoxal qui animait les parents devant des événements terribles comme cela.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous propose maintenant de réécouter Jacqueline. Cette fois-ci, on est au moment de la libération. Et elle raconte les retrouvailles avec son père qui a été prisonnier de guerre en Allemagne.
Mon père est arrivé à Paris, justement. Il est descendu à vélo, sur un vélo. Il n'avait pas d'argent pour prendre le train. Il est descendu à vélo voir sa fille. Et à l'époque, j'habitais Quimper, Paris, Quimper, à vélo, hein. Et un petit vélo. Et alors, il était tellement... Les efforts, il les connaissait tellement. Et c'était la belle époque où il faisait beau. Et il dormait dans les foins, la belle étoile, pour arriver rue de Rospandin, je me souviens, où mon oncle et ma tante m'avaient recueilli en vacances. Et j'ai vu arriver mon père, en prisonnier, avec ses vêtements lourds, sales. Il avait fait le chemin pour venir me voir plus de 8 jours parce qu'il avait été pris. Il avait voulu passer par des endroits qu'il connaissait et il était tombé à Nantes où là, on l'avait arrêté parce qu'il n'avait pas ses papiers en règle. Mais comme il était en militaire français, il a été retenu quelque chose comme 48 heures. Alors il était très en colère parce qu'il disait « Si vous ne voyez pas que je suis pas... » Et même si j'étais un prisonnier évadé, j'aurais le droit à beaucoup plus d'égards. Alors il avait beaucoup de volonté.
On continue cette émission en chanson. Les résidents ont choisi pour vous un morceau qu'ils veulent partager. Ça s'appelle « Sous les ponts de Paris ». C'est de Lucienne Delisle. Et sachez que c'était un tube pendant la libération. On les écoute.
Pour aller à Suresnes, ou bien à Charenton, tout le long de la Seine, on passe sous les ponts. Pendant le jour suivant son cours, tout Paris en bateau défile, cœur plein d'entrain, ça va, ça rien, mais le soir lorsque tout dort tranquille. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se profilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette. Hôtel du courant d'air, où l'on ne paie pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris. À la sortie de l'usine, Julot rencontre Nini. Ça va-t-il?
Alors, il y en a qui chantent, c'est bien. Alors, après la guerre, mesdames et messieurs, vous étiez tous des jeunes hommes et des jeunes filles, et pour vous, ça a été l'époque des premiers flirts, des premiers émois, des premiers amours, ceux qu'on oublie rarement.
T'as de bons yeux, tu sais.
Embrassez-moi.
C'est mon mari, le premier baiser, ouais. J'étais danser au Balajo et j'ai rencontré un beau jeune homme qui m'a invité, mais pas pour la valse, parce qu'il ne savait pas danser la valse. Mais les tangos, les rumbas, ça allait très bien. Et un jour, il m'a invité au cadran, à la gare de Colombes. Alors, il m'a fait un bisou sur la joue, mais la deuxième fois qu'on s'est revus, il m'a demandé s'il se permettait de me faire un gros bisou. Alors, on s'est fait un bisou sur les lèvres. et j'étais très contente. Ça m'a fait des frissons.
Dans un square à Anvers, j'avais 16 ans et demi. Ben, pas avec une femme, hein, avec un homme. Hein.
Je sais pas.
Puis alors, ça s'est bien passé, mais il avait les mains baladeuses, moi. Alors, j'aime pas trop les mains baladeuses. Surtout devant les gens. Mm-hmm. Voilà, c'est tout.
Et vous l'aviez rencontré où, ce jeune homme?
Ben, dans le square.
Oh, alors là, je vous dirais qu'il était dans les spectateurs, et moi également. On était peut-être côte à côte depuis un certain temps, quand il s'est tourné vers moi et qu'il m'a demandé « Voulez-vous danser, mademoiselle ?» Tout simplement, j'ai dit oui. Hein. Très heureuse qu'il me prenne pour une grande jeune fille. Hein. On a fait plusieurs tours de danse et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à la fin de la guerre. Enfin, je suis tombée amoureuse.
Il s'est installé en face de moi. On avait deux bureaux, on se regardait. Alors c'est moi qui l'ai mis au courant, en somme. Et puis voilà comment on s'est connus. Et puis bon, bah, on s'est appréciés petit à petit. Oui, le premier c'était dans l'intérieur de la société d'ailleurs. Et puis on nous a surpris. Alors. On faisait ça au moment d'aller aux toilettes, disons. On aurait pu faire les 60 ans à quelques mois après. Oui.
Alors, Maurice, je vous vois très ému, Maurice est très concentré. Est-ce que vous nous entendez, Maurice? Je voulais vous poser une question. Vous êtes marié avec Jacqueline depuis plus de 50 ans? C'est bien ça. Et donc, vous faites partie de ces gens qui se sont mariés avec leur premier amour. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés et quand? Vous vous souvenez?
Dans la rue.
Dans la rue. Vous aviez quel âge?
Moi, j'avais 23 ans.
Et Jacqueline?
18.
Et alors, qui a dragué l'autre?
C'est moi.
Et comment vous vous êtes pris?
Je lui ai demandé si elle voulait danser avec moi.
Ouais.
Elle était enchantée, elle voulait danser avec moi. On a dansé ensemble, et puis voilà.
Et depuis, vous n'êtes pas quitté?
Pas quitté depuis.
Et vous êtes ensemble à la maison de retraite?
Oui.
C'est très rare aujourd'hui?
Oui, c'est ça.
Ça fait combien d'années que vous êtes mariés ensemble?
63 ans.
Est-ce que c'est combien ces noces-là, là, plus de 60 ans? C'est les noces de... C'est les noces d'argent?
Diamant.
Bon, bah bravo, hein. Merci. Alors, vous, Jackie, je voulais aussi vous poser une question. Vous êtes à peu près de la même génération. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes marié avec votre premier amour?
Bon, le premier amour, je me rappelle pas tellement, mais enfin, bon, moi, à mon époque, moi, je me rappelle bien, c'était plutôt les fleurs. On pensait pas aller plus loin. C'est que vers 18 ans, 19 ans, quand je me suis aperçu que, bon, ben, je vais aller plus loin, quoi, mais sans plus. Puis après, ben, j'ai attendu les 20 ans, puis après, je me suis marié. Puis voilà, ça a duré 5 ans, j'ai divorcé. Puis j'ai attendu quelques temps, puis je me suis remarié une deuxième fois. Là, ça a duré plus longtemps, ça a duré 26 ans. Et après, j'ai fini par un divorce, j'ai eu deux enfants, deux garçons. Et après, ça s'était usé, quoi. Le ménage était usé. Ça, bon, je me suis séparé une deuxième fois. Après, j'ai resté célibataire.
D'accord.
Jusqu'à maintenant.
Et c'est bien aussi d'être célibataire?
Maintenant, c'est trop tard.
Oh, c'est jamais trop tard, hein?
Non, jamais trop tard pour bien faire, mais bon, on pense plus pareil.
Merci. Et Josiane, vous, ça vous inspire quoi, alors, tout ça? Toutes ces histoires?
Ça me fait rire, moi. Bon, bah, c'est bien, c'est l'amour.
C'est l'amour. Alors, on peut tomber amoureux à 20 ans, mais on peut aussi tomber amoureux à 80 ans. Alain et Paulette se sont rencontrés à la maison de retraite Marcel Deveau. il y a tout juste un an.
Il y a des filles qui sont beaucoup plus jeunes qu'elle, mais qui sont tellement bêtes qu'elles sont repoussantes. Oui, c'est vrai. Le charme, c'est ce qu'elle a de plus précieux. Et en plus, elle est belle. Elle est très belle. Alors, je ne pouvais pas rester insensible à ma voisine très belle et ancien petit rat d'opéra. Qu'est-ce que vous voulez ? Les automnes ont croché. Si bon, si bon.
Il est très gentil, très charmant. Un homme bien, puis cultivé. On s'entend bien pour ça, parce qu'on passe des fois des heures entières. Il m'explique des choses puis que je ne connaissais pas moi-même. Et il a fait des petits livres, il a fait tout ça. Alors il m'a expliqué comment ça se passe. Mais on apprend toujours, tout le temps. Et c'est très intéressant.
C'est si bon.
Oh, c'est si bon.
De partir n'importe où.
Oh, c'est si bon.
Bras dessus, bras dessous.
J'en profite pour saluer Alain et Paulette qui n'ont pas pu venir aujourd'hui pour des raisons de santé. On voudrait leur dire qu'on pense bien à eux. Alors, à l'époque, les jeunes se rencontraient surtout au bal. C'est là qu'on sortait, qu'on se déniaisait, qu'on faisait la fête. Certains d'entre vous ont d'ailleurs fréquenté les mêmes lieux à Paris, place de Clichy et dans le quartier de Bastille. On en parle tout de suite après avoir écouté Jacqueline puis Josiane.
Vous dansez, mademoiselle ?
Oh ben moi là, tu sais, je commence à connaître la musique.
Bon ben mes enfants travaillaient bien, moi je vais m'amuser.
On allait danser le samedi au Tahiti, à la place Clichy, mais accompagné de mon grand ami, parce que à l'époque c'était quand même chaud comme quartier. Les jeunes filles s'y hasardaient pas comme ça. Le Tahiti c'était très très recherché, mais il y avait de la place pour tout le monde. On entendait tellement la musique qu'on n'avait pas besoin de guide. On était attiré par ce bruit qui était nouveau pour nous, hein, tout de même.
Ils savent danser, les charpentiers ?
Tu peux y aller, hein ? La meilleure danseuse de Belleville.
Le jour qu'on ne bossait pas, j'allais au Balajo. Puis il y avait les danseurs. Et moi, j'étais toujours dedans, moi. La java, le tango, le twist. Oh, j'ai tout dansé dans ma vie. Il était toujours derrière mes fesses. Hein. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu veux ? Bah, tu viens avec moi, quoi faire ? On va lire le journal. Il m'a dit, c'est tout. Bah oui, c'est tout, c'est déjà pour me lire le journal. Alors, puis après, je voyais qu'il cherchait un peu de trop. J'ai dit, non, t'es trop jeune. Misto, je voulais pas aller avec... Je les voyais derrière mes fesses, c'est vrai, je te dis. Mais c'est drôle, tu vois, il fallait pas me parler de coucher. Hein. C'était du flirt, c'est tout. J'étais un peu provocante. Hein. À ce moment-là, je portais des 18 cm. Hein. Je sais pas si je te l'ai déjà dit. Des 18 cm des hauts talons. Ben alors crois-moi que je tortillais pour faire droit. Hein. Et les Rosalie les bas bleus, qu'on m'appelait. J'étais connue par là. Quand on disait, ah, ça y est, voilà Jojo. Ma Josiane était dans la place, voilà. Un jour, si je sors, ça m'étonnerait que je sorte maintenant, mais s'il fallait que je sorte, tu sais, je voudrais bien revenir dans ce truc-là, dans Balajo. Parce que j'en me suis payé, j'ai rigolé.
Tous les samedis soirs, on allait comme ça, dans un bal musette pour danser comme ça, dans un vieux quartier fréquenté comme ça, par des danseurs de Java, comme ça. Rue de la Paix, au temps joyeux, où les frappeux étaient chez eux. Rue de la Paix, en ce temps-là.
Alors Josiane, je vous ai entendu fredonner là. Rosalie les Bœufs Bleus. Racontez-nous un peu le Balajo, pour ceux qui ne connaissent
c'est
pas.
C'est qui me parle ?
C'est moi. Ah oui, c'est les micros et les casques, ça fait bizarre.
Oh là là, ça a des très bons souvenirs, tout ça.
Racontez-nous un petit peu.
Qu'est-ce que vous voulez ? Bon, ben, j'étais toujours en train de me promener par là, parce que je ne connaissais pas le Balajo, mais c'est tôt que je l'ai connu. Alors, je voulais y aller tout le temps. Alors, j'y allais, j'allais danser, j'allais flirter et tout. Puis après, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis bête ? Rentre à la maison, maman, elle attend.
C'est où le Balajo ?
À Pigalle.
C'est rue de Lappe. C'est rue de Lappe, je crois. Rue de Lappe. C'est à Bastille.
Oui, la Bastille, je me trompe. Parce que comme j'ai voyagé beaucoup.
Et vous sortiez aussi à Pigalle ?
Je connais comme ma poche. Moulin Rouge. Comment qu'elle s'appelle déjà, celle qui avait les lesbiennes dedans, là? Madame Arthur?
Madame Arthur, ça existe toujours.
Qui c'est qu'il y avait encore? Oh, excusez-moi, je ne me rappelle plus, là, maintenant.
Il y a le Tahiti, à un moment donné, je crois que Paulette a cité, ou une autre. Vous connaissiez aussi?
Je connais par cœur. Place Lucie, Anvers, Pigalle, Barbès, voilà, toute la ligne.
C'est ça. Et Denise, je voudrais m'adresser maintenant à Denise. Vous avez connu des balles aussi, mais c'était pendant la Libération. Je sais que vous avez raconté ce souvenir-là. J'aimerais bien que vous nous le racontiez à nouveau. Les balles improvisées au moment de la Libération.
Des balles? Bon, ben non, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu deux, peut-être. À ce moment-là, j'étais où on habitait encore, c'est-à-dire à Bagnolet. Et c'était le vrai bal des pompiers du 14 juillet.
C'est-à-dire?
Seulement, il y a un jeune homme qui m'a invité un jour. Et puis, le lendemain, parce que ça durait deux jours, je crois. Le lendemain, il y en a un aussi qui m'a dit, bon, ben, on se reverra. Il ne s'est pas donné rendez-vous le lendemain. Seulement le lendemain, il n'est jamais venu. Voilà, c'était vraiment, vraiment exceptionnel, parce que moi, le bal, c'était pas vraiment mon truc. Ça m'intéressait pas tellement.
C'était pas comme Josiane.
Non, pas du tout.
D'accord. Je voudrais maintenant poser aussi une question à Jackie. Vous, Jackie, dans les années 60, vous jouiez dans un groupe de rock. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'était, ce groupe?
Oh, c'était une petite formation. Nous étions quatre. Un bassiste, le batteur, moi. Un bassiste, un accordéoniste et puis un soliste. Enfin, un rythmique, quoi. Nous étions quatre. Et on faisait des petites soirées. Nous sommes bien familiers le dimanche. Le samedi soir et le dimanche après-midi. Voilà.
Vous jouiez où?
Ça durait 4, 5, 6 ans, quelque chose comme ça. On faisait ça pour s'amuser, quoi. Puis après, on s'est aperçu que ça marchait pas trop mal, alors on s'est fait payer.
Comment il s'appelait, le groupe?
Non, je me rappelle plus tellement bien, mais ça allait pas chercher loin. Hein. Ça nous faisait de l'argent de poche. On s'est fait 500, ça représentait 500 francs à l'heure actuelle maintenant, quoi.
Et vous jouiez quoi comme instrument dans le groupe?
La batterie, moi.
Batterie. D'accord, c'est pour ça que je vous vois battre le rythme à chaque fois qu'on entend la musique.
C'est comme le vélo. Voilà.
Merci. Alors, votre génération, c'est... là, je passe à un autre sujet. C'est celle des 30 Glorieuses. C'est une période où il y avait beaucoup moins de chômage, où le rapport au travail était complètement différent. Je voudrais maintenant qu'on écoute tout de suite là les témoignages de Josiane, pardon, Alain, Jackie et Jean-Pierre.
Je n'ai jamais aimé les patrons. Et pourtant, il en faut des patrons. Je reconnais qu'il en faut. Mais j'ai du mal à qu'on m'exige. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, je ne suis pas un chien. J'ai du mal à être commandé. D'ailleurs, j'étais délégué du personnel. Alors, oui, mais je répondais. On ne dit pas tu, madame Leroy, on dit vous. N'oubliez pas que je suis le patron. Je dis, ah bon? Mais vous étiez comme nous 9 ans. Voilà ce que je leur disais. Oh, vous me faites chier, que je leur disais, mon Dieu. Je te jure, c'est vrai. Il y en a un qui dit, bon, vous allez prendre la porte. Oh, ben, si vous voulez, tout de suite, je m'en vais. Asseyez-vous. Parce que j'avais... C'est-à-dire que, tu vois, je n'avais peur de personne.
Je n'aime pas le mot travail, parce que le travail est une obligation. Et comme je ne m'oblige à rien. Sinon qu'à m'amuser. Quand j'écris, quand je dessine, je m'amuse. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant mieux. Mais je me suis amusé. Sur le plan professionnel, ma génération n'était pas liée à l'obligation du travail, comme c'est les jeunes aujourd'hui. On passait d'un boulot à un autre très facilement. La hantise du travail n'existait pas. Tandis que là, maintenant, pour les jeunes, et je les plains beaucoup, ils ont la hantise du travail. Et ça, c'est terrible.
Ma jeunesse, ça a été vite fait, moi. Je faisais rien à l'école. J'étais jusqu'au certificat d'études, le directeur de l'établissement, il a dit, c'est même pas la peine de le présenter, de le rapport. Bon, j'y étais quand même, donc je l'ai pas eu, j'en ai rien à faire. Et j'ai commencé à travailler à 14 ans. Et 14 ans, bon, c'est bon, à cette époque-là, 14 ans, on trouvait du boulot n'importe où. Hein. le boulot, ça courait les rues, c'est le cas de dire. Que maintenant, ce n'est pas le cas. C'est vrai que la situation à l'heure actuelle pour les jeunes, c'est pas ravissant. Ils veulent tous travailler, mais enfin, ils ne sont pas tellement courageux, il faut dire ce qui est. Ils aiment bien travailler, pas faire grand-chose et gagner beaucoup d'argent. Ils ont du mal à s'exprimer. On leur cloue un peu le bec plutôt qu'autre chose. Ils sont un peu paumés, ils ne savent pas quoi faire, parce que Pôle emploi. Oh, on parle de Pôle emploi, mais ils ne trouvent pas de boulot. Il y a 3000 places par là, il y a 2000 places par là, mais il n'y a personne qui travaille. Alors on se pose des questions. Et eux, pendant ce temps-là, ils galèrent. Je leur souhaite au contraire que ça s'arrange pour eux.
Dans le temps, c'était plus facile.
Dans le temps, c'était plus facile ?
Maintenant, les jeunes, ils n'ont plus de boulot. Alors. Le premier patron que j'ai connu, celui qui s'est boulot de 4 ans, je l'ai envoyé promener.
Vous avez envoyé promener votre patron ?
Il est venu pour me chercher le lendemain. Il trouvait la porte vide. Mon grand-père, il disait, retourne. Je lui disais, je retourne pas. On quittait un patron le lendemain, on était en face. Tandis que maintenant, c'est fini tout ça.
Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution ?
Bon, c'est de la merde.
Perdu dans la grande ville, la vie nous semblait facile. On n'avait rien, mais on était contents, c'était le bon temps. Dans une chambre sixième, on vivait notre bohème, l'espoir au cœur et puis la foi.
Alors Denise, je vais vous poser une question, je voulais juste avoir que vous nous parliez un peu de votre travail. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail ?
Oh, j'étais secrétaire, disons. On utilisait beaucoup la sténodactylo, quoi, qu'on ne fait plus beaucoup maintenant, mais pratiquement plus du tout. Mais ça me plaisait énormément. J'aurais bien voulu être institutrice et être prof de sténo. Mais j'ai pas choisi ça parce que, comme la guerre est arrivée et que une sœur m'est arrivée 20 ans après, je me suis dit, il vaut mieux que je travaille. Et je me suis mis à travailler dans le commercial, voilà, dans le secrétariat.
C'était à Paris ?
À Paris, oui.
Et vous êtes restée dans la même société ?
Dans la même société. Alors, c'est là où je suis rentrée en stage pour l'AFNOR, qui existe toujours d'ailleurs.
La FNOR, ouais, c'était quoi comme société, vous vous souvenez ?
De normalisation. Normalisation de tout ce qui est fabriqué, ça existe toujours. Et 6 mois après, est rentré un jeune homme, et c'est moi qui l'ai mis au courant. Et on s'est trouvé, je peux dire, nez à nez. Nos deux bureaux, se faisaient face et nos machines se rentraient. Des machines assez lourdes, hein, les Remington, tout ça, dans le bureau lui-même, pour qu'on puisse écrire dessus après. C'est moi qui l'ai mis au courant du boulot, et voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé après, avec ce jeune homme ?
C'est-à-dire que on s'est bien entendu, et puis on s'est bien accordé dès le départ, et on s'est rencontrés dans les moments de pause, comme on dit maintenant, c'est-à-dire au moment des toilettes, et on s'est fait surprendre une fois ou deux en train de s'embrasser, donc... Ça s'est su dans la société. Donc après, on a pu être dans le même bureau. On a pu être dans le bureau du zinc brut, comme on disait, parce que c'est une société qui s'occupait uniquement de tout ce qui était fait en zinc, depuis le minerai jusqu'au plus petit matériel. Et voilà. Moi, j'étais au zinc brut et lui, il a été envoyé au blanc de zinc, c'est-à-dire le blanc de zinc qui sert à faire la peinture. Voilà.
D'accord. Et alors vous, Josiane, vous, apparemment, fallait pas vous embêter au travail.
Ah non.
Racontez-nous.
Moi, j'étais délégué du personnel, alors les patrons, je ne pouvais pas les sentir.
Et alors, par exemple, qu'est-ce que vous leur disiez à vos patrons?
Bon, ben, des fois, j'étais mal poli.
Ouais.
Alors, je leur disais pardon après, mais sur le coup, il fallait que ça parte.
Et alors, vous, Jackie, vous le dites à un moment donné dans le reportage, vous n'avez pas connu cette période de chômage que connaissent les jeunes. Aujourd'hui, comment vous voyez les choses pour les jeunes? Vous pensez que c'est plus difficile pour eux?
Ben, ce que je conseille aux jeunes, c'est que bon, maintenant, c'est plutôt... Moi, j'étais plutôt manuel. Maintenant, les jeunes, c'est plutôt... c'est l'informatique. Ils aiment bien pianoter. Mais il n'y a pas du boulot pour tout le monde dans ce côté-là. Enfin bon, ce que j'en souhaite, c'est qu'ils trouvent du boulot, mais qu'ils restent courageux et qu'ils restent polis, sincères et respectueux. Voilà. Parce que la politesse, ça passe partout. Tant qu'il y a la politesse, on passe un peu partout. Et j'en souhaite beaucoup de courage, surtout. Puis ils ont du travail, qu'ils le gardent. Voilà. Bon courage.
Merci beaucoup. Alors, on arrive bientôt, malheureusement, à la fin de cette émission. Pour clore cette aventure, vous avez tous voulu adresser des messages d'espoir, un peu comme vient de le faire Jackie, aux jeunes générations, ou alors des conseils tout simples à ramener chez soi. Vous allez entendre maintenant tous les résidents des deux EHPAD qui ont participé aux ateliers.
Il faut dire ce que tu penses. Hein. Si tu as envie de dire merde, tu dis merde. Vous, si vous avez envie de dire merde, vous dites merde. Si elle vous dit qu'est-ce que vous avez dit, je vous ai dit merde et puis c'est tout.
Dans la vie, tout est dur. Tu vas, tu essaies. Je ne veux pas dire c'est dur, je vais partir. Tu continues jusqu'à un jour, ça devient facile.
Ben, les conseils que je leur donnerais, c'est de ne pas laisser courir les idées qui arrivent, ou les envies, les objectifs lointains. Il faut pas tirer le rideau. Il faut prendre ce qu'on entend. Puis après, la sauce, comme on dit, elle se fera petit à petit au contact de rencontres, de voyages. Il faut avoir des objectifs lointains.
Aller faire du sport, beaucoup de sport. C'est bon parce que le lendemain, on est bien, on est heureux d'avoir fait une soirée, d'aller jouer au ballon ou basket, tout ça. Hein. Faut pas rester à rien faire. On a tellement de temps après, plus tard, de plus rien faire. Et c'est long. Il y a beaucoup de belles choses que les gens passent à côté et qu'ils ne voient pas. Ah oui, il faut regarder. Ça vaut le coup d'exister quand même. Hein.
Surtout, regarder et écouter. Ne pas prendre de décision définitive. Il faut écouter et regarder. Ça, c'est sûr.
De se bagarrer pour conserver son travail. Il n'a pas commencé. Ça, c'est une bonne chose.
Ne jamais baisser les bras, même quand la situation est difficile. Il faut suivre les événements le mieux possible, en ayant confiance dans l'avenir et ne jamais renier ce que l'on a fait, ce que l'on a vécu. Et il faut s'en souvenir pour pouvoir le raconter plus tard aux jeunes, justement.
Il faut être courageux, poli, sincère et gentil. La politesse, parce qu'on passe partout. Ça.
On ne le sait pas, mais le choix est très important.
Je conseille aux jeunes de vivre leur passion en dépit de toute contrainte. Oubliez la contrainte et pensez à une chose, il vaut mieux être pauvre mais riche de sa pauvreté. Et ça, c'est ma formule, c'est une formule qu'il faut que vous traîniez tous les jours avec vous. Si vous êtes riche de votre pauvreté, vous ne devez rien à personne, vous n'avez rien à perdre.
Alors, avant de se quitter, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé au succès de cette émission, à commencer par tous les participants des ateliers radio, à Marcel Deveau et Esther L. Je remercie aussi, bien sûr, chaleureusement tous mes amis qui sont venus autour de ce plateau, qui sont venus pour témoigner. Je remercie aussi ceux qui sont dans la salle, qui ont fait le déplacement jusqu'ici. J'aimerais aussi remercier particulièrement les animatrices, Jessica d'Esther L et Fatia, de Marcel Deveau. Enfin, un grand merci à Delphine Ingiliardi de la mairie de Colombes, ainsi qu'à Emmanuel Gibello et Louise Vigneault de Chronos Equeros. On va terminer cette émission en chanson avec une chorale improvisée à Marcel Deveau. Vous allez voir, c'est une interprétation d'une chanson d'Edith Piaf que vous connaissez tous.
Non. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leurs trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
Alors, je voudrais juste terminer en remerciant encore de nouveau chaleureusement Jackie, Josiane, Denise, Maurice et Bernard, et j'aimerais bien que vous les applaudissiez tous, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Ça commence.